à Washington, la capitale des États-Unis. Le crime est devenu une véritable épidémie. Des gangs s'arrachent le contrôle de la drogue et laissent des cadavres sur leur passage. Le service de police métropolitain est surchargé lorsque le nombre d'homicides dépasse les 400 en une année. Avant que les policiers ne puissent endiguer cette vague de violence, ils deviendront à leur tour la cible des meurtriers. Un tueur de flics est à l'œuvre et la police devra faire appel au FBI pour tenter de l'arrêter. Le 10 janvier 1995, dans un restaurant du nord-ouest de Washington, le policier Vance Warren, qui était aussi gardien de sécurité à temps partiel, prit sa pause repas. C'était alors devenu une pratique courante pour les entreprises d'embaucher des policiers comme gardes de sécurité quand ils n'étaient pas de service. Les clients et les employés ne se sentaient que plus en sécurité. Personne dans le restaurant ne vit la silhouette dissimulée dans l'ombre. Deux balles effleurèrent la nuque du policier. Ce dernier chercha le tireur dans l'obscurité, puis il appela pour qu'on lui envoie des renforts. Il ignorait d'où les coups provenaient et si le tireur était encore là, prêt à faire feu de nouveau. Des policiers furent dépêchés d'urgence sur les lieux. En arrivant, ils ne trouvèrent aucune trace du tireur. Il ne semblait pas y avoir eu tentative de cambriolage. Le tireur n'avait apparemment qu'un seul objectif, tuer le gardien de sécurité. Suite au témoignage des clients, les policiers en déduisirent qu'il était seul. L'équipe d'experts judiciaires recueillit deux projectiles de calibre 22 à l'intérieur du restaurant, mais aucune douille. L'agent Vance Warren s'en tira avec seulement quelques blessures légères, mais certains de ses collègues n'auraient pas sa chance. Le 17 janvier, l'agent de police Eric Hayes se trouvait à bord d'une voiture de police à quelques pâtés de maison de la Maison Blanche. Un taxi était garé en double file de l'autre côté de la rue. Le policier rédigeait une contravention lorsqu'un homme s'approcha de la voiture. Il fit feu sur l'agent à quatre reprises à bout portant. Malgré des blessures à la poitrine, aux jambes et à l'abdomen, ce dernier parvint à sortir de son véhicule. Le chauffeur du taxi avait assisté à toute la scène. Il appela son répartiteur pour l'en aviser. Le tireur prit la fuite. Pendant ce temps, le chauffeur du taxi fit le tour du pâté de maison. Pendant sa fuite, le tireur retira son masque et sa veste, sans doute pour modifier son apparence. Lorsque le chauffeur du taxi tourna au coin du second pâté de maison, il aperçut le tireur arriver dans sa direction. Il appela son répartiteur pour l'aviser que le tireur venait de le héler. Le meurtrier ignorait que le conducteur du taxi avait été témoin de la fusillade et qu'il l'avait suivi. Il monta à bord de la voiture. Discrètement, le chauffeur éteignit sa radio pendant que le répartiteur appelait la police. Le message d'arrêter le taxi numéro 440 fut relayé à toutes les voitures de patrouille. Le chauffeur tentait de conserver son calme. Il espérait que les policiers repéraient sa voiture rapidement. Quelques minutes plus tard, des agents prirent la voiture en filature. Le tireur lui cria une nouvelle adresse et lui intima de poursuivre sa route. Le chauffeur freina alors brusquement. Le meurtrier jeta son arme à feu et prit la fuite. Il sema les policiers à sa poursuite. Ces derniers recueillirent son arme et trouvèrent 6 douilles de projectiles. Des experts furent dépêchés sur les lieux pour prélever les indices dans le secteur. Sur la scène du crime, l'agent Hayes luttait pour sa vie. Les médecins l'opérèrent d'urgence et lui retirèrent 4 projectiles de calibre 32. Un agent de police fit appel à une équipe d'experts pour effectuer la cueillette d'indices. Avant de recueillir quoi que ce soit, ils commencèrent par photographier les lieux. Puis ils ratissèrent la scène. Dans une ruelle, ils trouvèrent les vêtements abandonnés par le meurtrier, notamment un masque de ski noir. Ces effets recelaient peut-être des indices sur l'identité du tireur. Le chef de police craignait une autre attaque. Il ordonna aux policiers d'effectuer toutes les patrouilles accompagnés d'un collègue et demanda l'aide du FBI. L'agent spécial Jay Abbott fut assigné à cette affaire.
À partir de ce qui était arrivé, on en était venu à penser qu'un gang de Washington avait décidé de déclarer la guerre à la police et de tuer des agents.
C'est en faisant appel à des experts en criminalistique que la police entendait répondre à cette vague meurtrière. On envoya tous les indices recueillis sur les scènes de crime au laboratoire du FBI, l'un des meilleurs au monde. Les vêtements recueillis dans la ruelle furent acheminés au service responsable des fibres et des cheveux. Dans ce service, on travaille sur plus de 2500 cas par année, qui proviennent de partout aux États-Unis. On donna la priorité au meurtre du policier de Washington. Après avoir brossé les vêtements au-dessus d'une feuille de papier blanc, on examina attentivement les fibres obtenues. Un technicien trouva un cheveu qui provenait du masque de ski. Dès que la police disposerait d'un suspect, on pourrait comparer ses cheveux à l'échantillon recueilli. Dans l'éventualité où ils seraient identiques, cela donnerait du poids à la poursuite. L'arme à feu, les douilles et les projectiles recueillis furent envoyés au service des armes à feu et de marques d'outils. On devait avant tout déterminer si le revolver de calibre 32 abandonné par l'assaillant avait servi à abattre les agents de police. À l'intérieur du canon d'une arme à feu, on trouve des sillons en spirale uniques. Quand un projectile est tiré, ces sillons y laissent des marques. L'analyse consistait à comparer les sillons sur une balle utilisée lors d'un tir d'essai à ceux des projectiles retrouvés après les crimes. On envoya l'échantillon témoin, de même que les douilles, à un analyste pour qu'il les examine au microscope. Les balles étaient identiques. Par conséquent, le revolver de calibre 32 avait servi lors des 2 récentes fusillades. Les enquêteurs étaient donc à la recherche d'un seul individu. Pour retrouver le suspect, le FBI et le service de police métropolitain firent appel à leur seul témoin, le chauffeur de taxi. On lui demanda de décrire l'assaillant à un dessinateur judiciaire. C'était un homme de race noire, au teint moyen et à la mâchoire carrée. La caractéristique la plus frappante dont le chauffeur se souvenait, c'était qu'il portait un appareil dentaire. Les enquêteurs se mirent en contact avec les dentistes et les orthodontistes de la région pour vérifier si l'un d'eux pourrait reconnaître le suspect à partir du portrait. On le fit également diffuser à la télévision, dans les journaux, et on l'afficha dans les commerces de la région. Grâce à la récompense offerte, les policiers reçurent bientôt des centaines d'appels. L'agent spécial Jerry Baumel aida la police à remonter ses pistes.
Based on leads which we generated,
à partir des appels téléphoniques et des informations des dentistes et des orthodontistes, nous avons constitué une liste d'environ 100 suspects éventuels pour ces deux fusillades.
Au cours des mois suivants, on interrogea les suspects et on les élimina un à un. Mais les agents du FBI et les détectives ne procédèrent à aucune arrestation. Les milliers d'heures de travail investies n'avaient rien donné. Puis, le 26 avril, le policier John Novabilski de la police de Prince George County au Maryland fut engagé comme gardien de sécurité d'un commerce de vente d'alcool près de Landover, en banlieue de Washington. Un homme masqué s'approcha et fit feu 16 fois sur lui, presque à bout portant. Le policier n'eut aucune chance. Puis le tireur s'empara du revolver de 9 mm de l'agent abattu. Un témoin entendit des coups de feu et appela à l'aide. Mais c'était déjà trop tard. L'agent Novabilski était mort sur le coup. Les policiers du Maryland érigèrent un périmètre de sécurité autour du secteur et interrogèrent le témoin. Il n'y avait aucun mobile apparent ni avertissement préalable. La victime était un policier. Ce meurtre s'inscrivait dans la même lignée que les deux autres commis plus tôt à Washington.
Il y avait de nombreuses ressemblances entre le meurtre du sergent John Novabilski et la tentative de meurtre de nos deux policiers ici à Washington. Dans chacun de ces cas, un individu s'est approché d'un policier en position assise. Sans qu'il y ait eu quelque provocation que ce soit, il a fait feu et il a abattu le policier.
5 mois s'étaient écoulés depuis le premier cas. Les agents n'étaient pas encore parvenus à trouver un suspect. Maintenant, cet individu était recherché pour meurtre. Les policiers de Washington, accompagnés d'agents du FBI, ratissaient les rues à la recherche d'un tireur qui avait blessé deux de leurs collègues. Alors qu'ils étaient à sa recherche, le service de police du Maryland procéda à une arrestation relativement au meurtre d'un de ses agents. On n'avait pas d'indice permettant de relier entre eux le suspect du Maryland à celui qui avait attaqué deux policiers de Washington. L'agent spécial Jay Abbott croyait que l'assaillant de Washington était encore en liberté et qu'il pouvait attaquer à tout moment.
Nous avions l'intuition que cet individu allait tenter de tuer un autre policier à Washington ou dans les environs. Cela nous inquiétait grandement, d'autant plus qu'aucune piste ne s'offrait à nous.
Le 18 mai 1995, pendant que les enquêteurs effectuaient toujours des recherches dans la capitale américaine, une jeune femme du Maryland se présenta à un poste de police de Prince George. Nadine McRae était couverte de contusions. Elle déclara au policier qui la rencontra qu'elle avait été battue par son ami de cœur. Une amie l'accompagnait. Elle raconta en détail l'attaque sournoise de Ralph McLean à son endroit. L'agent Baumel se rappelle combien la plaignante était mal en point suite à cette attaque.
McLean a tenté de tuer McRae dans la soirée du 17. C'est la raison pour laquelle elle s'est présentée au poste de police le 18. Il l'avait battue jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et il l'avait ensuite gavée de drogue.
Le policier de Prince George fit émettre un mandat d'arrestation de McLean pour tentative de meurtre. Il recommanda à Nadine de subir un examen médical complet. En se dirigeant vers la sortie, son ami la supplia de dire au policier pourquoi McLean l'avait battu à mort. Nadine était hésitante. Elle craignait d'envenimer encore plus la situation si elle révélait trop d'informations. Elle finit toutefois par dire ce qu'elle savait.
«
le soir de la diffusion du portrait robot du suspect, 3 mois plus tôt. Elle avait été étonnée de voir McLean arracher l'appareil dentaire qu'il avait en bouche. Elle l'avait questionné, mais McLean lui avait dit de se mêler de ses affaires. Nadine croyait que Ralph McLean n'était pas seulement responsable des fusillades de Washington, mais qu'il était aussi l'individu qui avait tué le policier de Landover.
Son compagnon, McLean, lui a dit que la police avait arrêté le mauvais individu pour le meurtre de l'agent Novabilski à Landover, au Maryland.
Nadine McRae venait de donner aux policiers la piste qu'ils espéraient. Maintenant, malgré ses réticences à parler, elle ne pouvait plus faire marche arrière.
Je crois qu'elle a compris à quel point cet individu était dangereux et elle a accepté de collaborer avec nous. De plus, elle était consciente que sa propre vie était en danger maintenant qu'elle nous avait fait ses révélations.
Les policiers introduisirent le nom de Ralph McLean dans le NCIC, le système du Centre national d'information criminelle, afin de vérifier si le suspect avait déjà fait l'objet d'accusations par le passé. L'agent Barnwell constata alors que McLean était déjà un habitué du monde du crime.
Il avait de nombreux antécédents criminels, ici même à Washington, où il avait été arrêté à plus de 20 reprises. Ces arrestations étaient reliées à des délits mineurs, comme des vols à l'étalage. Mais il y avait aussi l'attaque d'un agent de police et la vente de drogue.
Les enquêteurs obtinrent un mandat de perquisition de l'appartement du suspect.
Nous étions très tendus quand nous nous sommes rendus chez lui. Nous craignions qu'il ne soit là. Nous étions aussi inquiets parce que nous ne savions pas ce que nous allions trouver chez lui.
Heureusement, McLean était absent. Les enquêteurs commencèrent à fouiller l'appartement. Ils y trouvèrent, éparpillés un peu partout, des magazines extrémistes, des manuels d'armes à feu et des guides pour mener des opérations terroristes. Ces documents décrivaient avec force détail comment surveiller quelqu'un, comment se dissimuler et assaillir ses victimes par surprise. Dans le salon, l'équipe d'experts découvrit un masque de ski noir, identique à celui recueilli sur la scène de la seconde fusillade. Ils trouvèrent également des projectiles de 9 mm, soit du même calibre que ceux utilisés pour abattre le policier du Maryland. Dans une armoire se trouvaient d'autres munitions, cette fois de calibre 32.
Cette découverte était très importante parce que l'assaillant du sergent Eric Hayes et de l'agent Vance Warren utilisaient un revolver de calibre 22. Nous avons également trouvé le manuel d'utilisation d'une arme d'assaut Mac 11, de même que toute une documentation préconisant la haine des policiers.
Les experts judiciaires se mirent à la recherche de cheveux pour les comparer à celui trouvé plus tôt. Ils en recueillirent des échantillons dans des brosses à cheveux, des draps, de même que dans le siphon du lavabo de la salle de bain. Si ces cheveux correspondaient à celui recueilli sur la scène du crime, les agents disposeraient enfin d'un élément de preuve contre le fugitif. Ils appelèrent le chauffeur du taxi pour lui montrer des photos parmi lesquelles se trouvait celle du suspect. Ils lui demandèrent d'identifier l'assaillant de l'agent Ace. Le détective Lauren Lenman du service de police métropolitain de Washington était alors présent.
Le chauffeur de taxi nous avait dit à maintes reprises que si on lui montrait une photo du suspect, il le reconnaîtrait sans hésitation. On entend souvent ce genre d'affirmation, mais il l'avait dit avec beaucoup de conviction.
Les enquêteurs faisaient défiler une à une les photos devant le témoin. Il les étudiait tout attentivement. Quand quand on lui donne à la quatrième photographie le terrifiant épisode qu'il avait vécu refit surface. Il avait sous les yeux le visage de Ralph McLean.
Il a commencé à parler à la photo, comme si Ralph McLean était présent. Ce fut la séance d'identification la plus convaincante que j'ai jamais vue. Il est même allé jusqu'à crier.
Deux témoins affirmaient maintenant que Ralph McLean était le tueur de flics. La science servirait de troisième témoin. Au laboratoire du FBI, les experts constatèrent que les cheveux recueillis chez McLean correspondaient à celui de la scène de la fusillade de l'agent Ace. C'était l'indice requis pour obtenir le mandat d'arrestation de Ralph McLean.
Nous étions alors munis de preuves solides. Son ami était venu faire une déposition. Nous disposions également d'échantillons de ses cheveux. Nous avons préparé une déclaration que nous avons faite signer sous serment par un juge de la Cour supérieure et ainsi obtenu le mandat.
Les policiers demandèrent ensuite l'aide de Nadine. Elle était sous surveillance constante de la police depuis que McLean avait tenté de la tuer. Elle parvint à le rejoindre sur son téléphone portable. Il ignorait que des policiers écoutaient la conversation. Grâce à cette écoute, l'agent spécial Jay Abbott et son équipe réussirent à suivre la trace de McLean.
À un moment donné, il se trouvait dans le secteur de Fredericksburg, en Virginie, où nous avons été sur le point de l'arrêter. Malheureusement, il nous a échappé.
Nadine parla à maintes reprises au suspect pendant les deux jours qui suivirent, ce qui permit aux autorités d'apprendre que McLean avait pris la direction du sud et qu'il comptait se rendre en Floride. Il ne donna cependant pas de précision à Nadine sur l'endroit où il était. Se doutait-il que son ami coopérait avec la police? Cette dernière apprit aux agents que McLean suivait l'actualité grâce à une télévision portative. Si les policiers comptaient l'arrêter, ils devaient le prendre par surprise et éviter que son nom ne soit mentionné dans les médias. Cela signifiait qu'on ne pouvait pas introduire les données le concernant dans le système informatisé national auquel les journalistes ont accès. Cette décision allait leur coûter cher. Dans l'état de la Caroline, un patrouilleur arrêta McLean pour excès de vitesse. L'agent de police lui demanda son permis de conduire ainsi que le certificat d'immatriculation de la voiture. McLean lui montra son permis et lui dit que les autres pièces se trouvaient dans le coffre arrière. L'agent de patrouille, à qui il ne restait que quelques semaines de travail avant la retraite, le suivit jusqu'à l'arrière du véhicule. McLean fourragea parmi ses effets personnels et en ressortit son certificat d'immatriculation. Le policier lui demanda de retourner s'asseoir dans son véhicule pendant qu'il vérifiait son dossier. Il s'assura notamment que la voiture n'avait pas été volée. Les données qu'il obtint indiquaient que la voiture appartenait bien à Ralph McLean. Il rédigea la contravention, puis lui indiqua comment se rendre au palais de justice de la ville pour la régler. Le policier eut la vie sauve, mais les autorités avaient manqué l'occasion de capturer le meurtrier. À Washington, des détectives cherchaient à attirer dans leur filet le suspect Ralph McLean, soupçonné du meurtre de nombreux policiers. Pour ce faire, ils devraient de nouveau faire appel à Nadine McRae. Ils lui demandèrent de promettre à McLean qu'elle se réconcilierait avec lui s'il revenait. Il déclara qu'il était intéressé par son œuvre, mais il n'était pas d'accord sur l'endroit et le moment de la rencontre qu'elle lui suggérait. Les enquêteurs craignaient de perdre l'élément de surprise requis.
Nous espérions avoir un certain avantage sur lui, mais ça n'a pas été le cas. Les médias ont eu vent de l'affaire. On a diffusé son nom et sa photo, ce qui nous a réellement dérangés parce que ça modifiait considérablement la situation.
Il fallait espérer que McLean n'ait pas vu ce bulletin de nouvelles. Lors du week-end du jour du souvenir, il appela enfin Nadine. Il était prêt à la rencontrer. Comme les agents du FBI le lui avaient indiqué, Nadine suggéra à Ralph qu'ils se rencontrent dans un centre commercial du nord de la Virginie où les agents pourraient les surveiller à loisir sans risquer d'être repérés. Ralph McLean accepta de l'y rencontrer. L'information fut relayée à des agents de Washington. L'agent spécial Al Buckley fut avisé. C'est à lui qu'on avait confié la tâche de procéder à l'arrestation. Il appela l'unité SWAT du FBI qui était sur le pied d'alerte depuis déjà quelques jours.
Quand j'ai appris que McLean revenait dans la région de la Virginie et de Washington, j'ai eu l'intuition qu'il rentrait soit pour tuer Nadine ou alors pour abattre un autre agent de police.
Les policiers et les agents de Washington se rendirent au centre commercial de Tyson en Virginie. Leur tâche première était de fermer tout le secteur. Une fois que McLean arriverait, il fallait éviter qu'il ne s'échappe. L'équipe avait plusieurs années d'expérience à son actif. Ce ne devait être qu'une simple opération de routine.
J'ai été mêlé à plusieurs arrestations. Nous avons des réunions avant de passer à l'action. En général, lors de ces réunions, nous faisons quelques blagues simplement pour éliminer la tension. Mais je dois dire que lors de cette soirée, la situation était complètement différente. Il n'y avait aucun bruit. C'est sans doute la seule fois au cours de ma carrière dans le FBI que le silence était à couper au couteau.
L'équipe mit au point son plan et attendit l'arrivée de McLean. Au poste de police de Prince George, d'où Nadine entrait en contact avec McLean, le répartiteur relayait les informations aux agents en service. L'agent Buckley reçut un appel. McLean avait changé le lieu de rendez-vous. Il désirait maintenant rencontrer Nadine au Maryland, à environ 40 km de l'endroit où l'unité SWAT l'attendait. Ce changement soudain de plan était inquiétant. Cela laissait croire qu'il se doutait peut-être du piège qu'on lui tendait.
Nous avons commencé à croire qu'il avait flairé le coup de filet. Cela rendait l'affaire encore plus grave. Nous n'étions même plus sûrs s'il se présenterait au point de rendez-vous. Il avait peut-être compris qu'il y avait un piège.
Une fois à proximité de l'endroit, les policiers éteignirent leur gyrophare. Ils écoutaient leur radio en permanence. Un répartiteur de la police relayait au fur et à mesure les nouvelles informations aux agents sur place. Il les mettait au courant des projets de McLean en se basant sur ses conversations avec Nadine. Les policiers étaient à la merci de ses moindres coups de tête. Après avoir changé de point de rendez-vous à quelques reprises, l'équipe apprit que McLean avait décidé de rencontrer Nadine à une station d'essence devant le centre commercial Beltway. Ils firent de leur mieux pour cerner le secteur. Les agents espéraient disposer d'assez de temps pour bien faire le travail. Une fois le secteur sous surveillance, ils n'auraient plus qu'à attendre l'arrivée de McLean ou son prochain coup de téléphone à Nadine. Le détective Ledman prit position dans un champ devant la station d'essence. Il croyait que, malgré ses soupçons, McLean s'y rendrait.
Nous n'étions pas convaincus qu'il voulait la revoir. Nous avions plutôt l'intuition qu'il tentait de la mettre à portée de tir pour la tuer. Et pourquoi voulait-il la battre? Parce qu'elle était la seule personne qui pouvait témoigner contre lui.
L'équipe effectuait les derniers préparatifs pendant que Nadine attendait sagement au poste de police et parlait à McLean sur son téléphone portable. Billy Christian, qui comptait alors 20 ans d'expérience au sein de la police, se gara à l'endroit le plus près de la station d'essence. La cour de l'école de l'autre côté de la rue était le meilleur point stratégique. Si McLean arrivait, l'agent Christian serait le premier à l'apercevoir. D'autres membres de l'équipe attendaient dans les rues avoisinantes. Ils espéraient ainsi voir la voiture de McLean s'approcher du lieu de rendez-vous. La tension augmentait de plus en plus.
J'étais très stressé. Al Buckley et moi-même étions dans le même véhicule à seulement quelques centaines de mètres. Un bon nombre de policiers étaient sous nos ordres. C'était très tendu. Je me rappelle même lui avoir dit que j'espérais que nous l'arrêterions avant qu'il ne blesse quelqu'un.
Finalement, on avisa l'équipe que le suspect avait appelé Nadine. Il s'était plaint de ne pas la voir à la station d'essence. Il était donc dans le secteur, même si les agents ignoraient exactement où. Ils étaient persuadés qu'il était tout près.
Lors de cet appel, il chuchotait. Cela m'a poussé à croire que quelqu'un se trouvait près de lui. Je me suis demandé s'il n'était pas là, sous mon nez, à mon insu.
Dissimulé derrière une petite colline, le détective Ledman jeta un autre coup d'œil à la station-service, mais McLean n'était nulle part en vue. En regardant vers sa droite, il pouvait voir la voiture de l'agent Christian. De sa position, Christian avait aussi une vue générale du secteur, mais il ne voyait aucune trace du fugitif. C'est alors qu'un policier, qui effectuait une patrouille de routine, se gara derrière la voiture de Christian. L'agent, qui ne savait rien de l'arrestation, trouvait bizarre qu'une voiture fantôme soit garée à cet endroit.
Billy Christian voyait bien le danger que courait ce policier. Il est alors sorti de sa voiture, il a marché vers lui pour lui montrer ses pièces d'identité. C'est sans doute à ce moment-là que Ralph McLean a su que Billy était un représentant des forces de l'ordre.
L'agent de patrouille éteignit alors son gyrophare et quitta les lieux. Christian retourna à sa surveillance. Pendant que les enquêteurs attendaient McLean, ce dernier les épiait. Il avait l'avantage stratégique sur eux, car c'était lui qui détenait l'élément de surprise. Il était vêtu de noir et se cachait dans les ombres tout en surveillant la voiture de Christian. Il s'avança lentement vers le policier. Les agents étaient certains qu'il se tairait quelque part. L'angoisse avait encore monté d'un cran depuis que McLean avait cessé de faire des appels à Needy. Le tueur de flics continuait d'avancer. L'agent Christian avait les yeux rivés sur la station d'essence. Il ne vit pas l'ombre furtive qui s'approchait de sa voiture. Les agents du FBI et des détectives de Washington avaient cerné une station d'essence à Greenbelt, au Maryland. Ils attendaient l'arrivée de Ralph McLean, recherché pour le meurtre d'un policier. Le suspect était dans les parages, mais personne ne savait exactement où il se tairait. McLean s'approchait peu à peu de la voiture de l'agent Billy Christian, tout en restant dans l'ombre. En entendant un bruit, le policier se retourna pour regarder derrière lui, mais il ne vit rien.
Il entendit encore quelque chose et regarda à la ronde sans rien voir d'anormal. McLean était hors du champ de vision de l'agent. Le tueur s'avançait toujours dans sa direction. Soudain, il se leva, brandit son arme d'assaut Mach 11 et le visa. Il y eut de nombreux coups de feu dans l'air. L'agent Bill Christian s'affaissa sur son siège. Le détective Lenman aperçut alors McLean prendre la fuite dans les bois et il appela les autres policiers pour obtenir des renforts. Il parvint ensuite à sortir le policier ensanglanté de sa voiture. Il le coucha au sol et appela de nouveau pour obtenir de l'aide. Jay Abbott et Al Buckley furent les premiers à répondre à son appel.
On a entendu un appel à la radio. Il y avait eu des coups de feu et le suspect s'était enfui. Quand nous avons garé notre voiture près de celle de Billy Christian, nous avons constaté qu'on avait tiré sur lui. La vitre de sa portière était fracassée.
Le détective Lenman tentait d'aider le policier blessé en attendant l'équipe de secours.
Le coup provenait de son angle mort, à environ 45 degrés. Il avait été touché à maintes reprises et était mort.
Le tueur de flic avait enlevé une nouvelle vie.
Cet individu venait d'abattre un bon ami et collègue. Il avait été comme un mentor pour nous tous. Il était là depuis longtemps. Il avait 20 ans de carrière à son actif. Être témoin d'un crime aussi gratuit, c'était révoltant.
Des unités de divers services de police répondirent immédiatement à l'appel. Un policier de Prince George arriva sur les lieux avec un chien et commença à suivre la piste de McLean dans l'obscurité.
Je me rappelle avoir aperçu l'animal courir en direction de la voiture de Billy. Il l'a regardé, a reniflé la portière, puis il a fait demi-tour et tenté d'aller en direction de l'école.
Les policiers s'élancèrent dans l'obscurité avec le chien, munis de leur revolver semi-automatique. Ils ignoraient si on leur avait tendu un piège.
Nous avons commencé nos recherches dans un secteur boisé. J'allumais et j'éteignais ma lampe de poche sans arrêt parce que je craignais que McLean ne profite du faisceau lumineux pour nous viser.
L'obscurité avantageait nettement le suspect.
Nous sommes entrés dans les bois pour découvrir de quel côté il était parti. Quand j'y repense aujourd'hui, c'était sans doute une erreur de jugement de notre part. Mais en plein cœur de l'opération, nous étions perturbés.
L'équipe pressa le pas. McLean avait malheureusement eu assez de temps pour tendre un piège aux policiers.
Quand il s'est enfui de la scène, peu après avoir abattu Billy Christian, il a trouvé le moyen d'appeler le service d'urgence pour signaler avoir aperçu un homme armé s'enfuir du secteur en voiture. C'était une tentative évidente de déjouer ceux qui étaient à sa poursuite et d'essayer de nous semer.
En retraçant l'appel, on put toutefois déterminer que McLean était toujours dans le secteur. Le tueur de flics semblait une fois de plus échapper aux autorités. Il traversa à la course le stationnement du centre commercial avoisinant. Le meurtre gratuit de Billy Christian avait rendu les policiers fous de colère. Ils s'armèrent de courage pour poursuivre les recherches. Les agents fédéraux et les policiers jurèrent de l'arrêter avant qu'il ne tue à nouveau.
La colère est sans doute le mot qui traduit le mieux l'émotion que je ressentais au cours de cette soirée. J'étais tellement furieux que nous ne rentrions pas tous ce soir à la maison parce que Billy avait été tué.
Pendant que les agents Buckley et Abbott étaient à la recherche du fugitif dans les bois, un des policiers postés dans le stationnement du centre commercial appela le détective Ledman.
McLean est arrivé à la course et s'est caché derrière un magasin. Il y avait là une grande rampe où se trouvaient trois remorques. Il s'est dissimulé derrière ces remorques.
McLean ouvrit le feu sur ses poursuivants. Ces derniers évitèrent la volée de projectiles en se couchant au sol. Ils firent feu à leur tour. Les agents Abbott et Buckley qui sortaient du bois assistèrent à toute la scène. Ils saisirent leurs armes et se joignirent à la fusillade. McLean avait l'avantage et il était bien armé. Les policiers étaient coincés. Comment pouvait-on l'atteindre sans risquer de nouvelles pertes de vie? Jerry Bammel de l'unité SWAT du FBI fut dépêché sur les lieux. Il visa le fugitif mais constata qu'il était mal placé pour tirer. Il profita d'un moment de distraction du tueur pour se diriger vers sa droite. Pendant l'échange de coups de feu, il se dissimula. Puis il surgit de derrière une benne à ordures et commença à faire feu sur McLean du côté opposé des policiers. De sa position, il remarqua toutefois que McLean avait une issue pour s'échapper.
Le quai de chargement se terminait par un garde-fou, puis par un mur d'environ 3 mètres de hauteur. J'ai réalisé que McLean pouvait aisément franchir ce mur, puis prendre la fuite par l'étage inférieur du stationnement où aucun agent n'était posté.
Bammel coupa ses tissus à McLean en ouvrant le feu dans cette direction. Maintenant, McLean recevait des volées de projectiles de deux directions opposées. Il fit volte-face et tira en direction de Bammel. L'agent riposta. Il toucha McLean. Les hommes continuèrent à faire feu. McLean tira encore quelques projectiles, puis ce fut le silence.
J'ai attendu pendant un moment et quelqu'un a crié quelque chose comme « Il est tombé ».
Bammel hésitait à avancer. Il voulait d'abord s'assurer que ce n'était pas un piège. Pendant que les policiers attendaient dans le stationnement, l'arme à la main, prêt à faire feu, Bammel se rendit près de la remorque et du corps immobile de McLean. Un autre agent avançait du côté opposé. C'est alors qu'un policier, dans l'ombre, leur cria qu'il avait vu le corps bouger et qu'il comptait tirer deux autres projectiles en direction de McLean.
Quand j'ai entendu ça, j'ai crié « Ne tirez pas !» J'étais inquiet parce que nous nous retrouvions au centre d'un feu croisé.
Heureusement, c'était la fin. McLean avait mis fin à ses jours avec un revolver de 9 mm, l'arme qu'il avait enlevée à l'agent Novabilski un mois plus tôt. Le tueur de flics était enfin mort, mais le prix à payer était fort élevé.
Cet individu n'avait qu'un seul but en tête, tuer des agents de police. Nous ne saurons jamais pourquoi. Mais il semble que ce soit ce qu'il avait décidé de faire à un certain moment de sa vie.
L'agent Billy Christian devait prendre sa retraite quand McLean l'a abattu. Il a travaillé à de nombreuses reprises avec l'agent Bammel au cours de sa longue carrière.
Billy était agent du FBI depuis 20 ans. C'était un tireur d'élite, un instructeur en armes à feu et l'un des premiers membres de l'escouade de sauvetage d'otages du FBI. Il était aussi membre à temps plein de l'unité tactique et des armes spéciales, en plus de l'unité SWAT de Washington.
On ajouta les noms des agents William Christian et Novabilski sur la plaque commémorative en l'honneur des policiers tombés dans l'exercice de leurs fonctions.
De mon bureau du FBI, je peux voir le monument. Il ne se passe pas une journée sans que je ne pense à mes amis.
Le sacrifice de ces hommes est toujours vivace. Chaque année, on leur rend hommage.
Quand on perd des collègues de travail, c'est comme si l'on perdait une partie de soi. On ne pourra jamais les oublier.
Après avoir tué un policier à bout portant, un meurtrier psychotique entraîne les enquêteurs à sa poursuite à travers le Midwest américain. Personne ne sait quelle sera sa prochaine cible, et le nombre de ses victimes ne cesse de croître. Le FBI et les services de police des États touchés font une course contre la montre pour délivrer le centre de l'Amérique de ce tueur à l'esprit dérangé. En Indiana, à 8h du matin, le 22 septembre 1986, un agent de probation se rendait chez un ex-prisonnier en liberté conditionnelle dans un quartier pauvre en banlieue d'Indianapolis. C'était un rendez-vous de routine qu'il avait fixé une semaine plus tôt. L'agent de probation Thomas Gall devait obtenir un échantillon d'urine de l'ex-prisonnier pour s'assurer qu'il n'avait pas consommé de drogue. Michael Wayne Jackson, 40 ans, avait été libéré d'une prison fédérale 5 mois plus tôt, après avoir été incarcéré pour possession illégale d'armes. Il avait également des antécédents d'abus de drogue et il était atteint de schizophrénie paranoïde aiguë. Il semblait hésitant à laisser entrer Gall chez lui, mais l'agent insista. Quelques instants plus tard, un voisin entendit des cris en provenance de la maison de Jackson. Il aperçut alors l'agent qui sortait de la maison en courant. Jackson le suivit et tira l'agent dans le dos avec un fusil au canon tronçonné. Il tira le dernier coup à bout portant. Le voisin appela la police tout en continuant de surveiller Jackson pour voir ce qu'il ferait ensuite. Il déclara à la téléphoniste du service d'urgence que l'ex-prisonnier était sorti de nouveau de chez lui, toujours armé de son fusil. Mais cette fois, il portait un imperméable noir et se dirigeait vers son pick-up vert. Des policiers d'Indianapolis se ruèrent chez le meurtrier avant qu'il n'aille trop loin. Le voisin avait remarqué que Jackson était chaussé de souliers de course et qu'il portait un jean quand il était parti. Jackson eut le temps de prendre la fuite avant que la police n'arrive. Comme l'agent de probation de cet ex-prisonnier était un employé du gouvernement fédéral, on avisa le FBI. Thomas Gall, 39 ans, avait été tué d'un coup de feu à la tête. L'agent spécial Jack Osborne, du bureau d'Indianapolis, fut assigné à cette affaire.
Quand je suis arrivé à la maison de Jackson, la victime se trouvait toujours sur la scène du crime. Nous avons fait venir de nombreux agents et policiers afin qu'ils interrogent les gens du quartier qui avaient été témoins du meurtre.
Le voisin qui avait appelé le service d'urgence déclara que le comportement de Jackson était devenu de plus en plus étrange ces derniers temps. Il l'avait vu à plusieurs reprises devant chez lui, se parler à lui-même à voix haute et de façon agitée. Les agents appelèrent le bureau de probation afin d'en savoir un peu plus sur le passé de Jackson.
Au cours de son incarcération l'année précédente, on avait diagnostiqué qu'il souffrait de schizophrénie paranoïde et qu'il était de caractère antisocial. Il devait entrer régulièrement en contact avec le service de santé mentale d'Indianapolis et recevoir ses médicaments tous les mois pour cette maladie. Les agents craignaient qu'il n'ait interrompu son traitement.
Des experts en scène de crime notèrent l'emplacement de trois douilles de fusil de calibre 12 près du corps de l'agent de probation. Thomas Gall avait reçu trois projectiles et le dernier d'entre eux lui avait été fatal. Cet ancien combattant du Vietnam occupait cet emploi depuis 11 ans. Il était le premier agent de probation fédéral à être tué dans l'exercice de ses fonctions. Thomas Gall laissait derrière lui une jeune famille et de nombreux amis.
Je connaissais très bien Tom. Je connaissais sa famille aussi, sa femme et ses deux enfants. Il avait été Marine et avait passé un an au Vietnam. Nous en avions parlé un peu. C'était un homme charmant, compétent, et il prenait son job à cœur. C'était difficile de travailler sur cette affaire sans que les liens qui nous unissaient ne viennent interférer dans ma façon de la gérer.
Selon les policiers qui fouillèrent la maison de Jackson, l'endroit était insalubre. Parmi les rebuts éparpillés sur le sol de sa maison, ils trouvèrent la chemise que Jackson portait au moment où il avait fait feu sur l'agent et qu'il avait ensuite enlevée. Elle était tout éclaboussée de sang. Des déchets et des déjections d'animaux jonchaient le sol de la maison. Il n'y avait ni électricité ni eau courante. Sur un comptoir de la cuisine, les enquêteurs trouvèrent une scie à métaux, de même que la partie sciée du canon et de la crosse de la carabine qu'il avait vraisemblablement utilisée pour le meurtre et qu'il avait emporté sans doute avec lui. Pendant que les techniciens fouillaient la maison, un bulletin d'alerte leur parvint sur la radio policière. À seulement 8 km de là, des témoins avaient assisté à un autre homicide. 20 minutes après le meurtre de l'agent de probation, un deuxième homme avait été tué d'un coup de fusil dans une épicerie et un troisième homme avait été kidnappé. Les agents interrogèrent une femme qui leur décrivit le tireur. Il avait des cheveux en bataille, il portait une barbe et il était vêtu d'un imperméable de couleur sombre. La femme ajouta que le meurtrier était déguisé de façon bizarre.
Les témoins de l'épicerie nous ont appris que le suspect était entré dans l'établissement avec un fusil en main. Son visage était barbouillé. On aurait dit qu'il s'était mis de la graisse et de la peinture en atomiseur. Il en avait aussi sur les cheveux et la barbe, ce qui lui donnait une allure plutôt étrange.
Les agents étaient convaincus qu'il s'agissait de Jackson. La femme déclara qu'à 8h20, un homme armé et dont le visage était recouvert de peinture avait fait irruption dans le commerce et demandé de l'argent. Pris de panique, le propriétaire avait eu du mal à ouvrir sa caisse enregistreuse. Mais le tireur ne voulait pas attendre. Pour ne pas repartir bredouille, il força le livreur de pain qui était là à l'emmener avec lui dans son camion de livraison. La femme n'avait pas vu dans quelle direction il était parti. Les enquêteurs firent ajouter ces nouvelles informations au bulletin destiné aux unités de patrouille. Des experts en scène de crime trouvèrent une douille de calibre 12 près de la caisse enregistreuse, soit le même calibre et la même marque que celle de la première scène de crime. Des chevrotines furent recueillies sur la victime pour être comparées à celles trouvées dans le corps de l'agent de probation. Vingt minutes plus tard, les agents reçurent un appel du livreur de pain. Jackson l'avait laissé à l'aéroport sans lui faire de mal. Mais l'homme déclara que le fugitif était encore armé et toujours en cavale.
À la pointe de son fusil, Jackson s'est emparé d'un autre véhicule à l'aéroport. Puis, il a pris l'autoroute, toujours en Indiana, et s'est arrêté à une station-service Sunoco, où il a pris de l'essence pour $10.50. Il est parti sans payer à bord de ce véhicule dont on nous a fourni la description. Une femme se trouvait alors avec lui.
Comme le livreur de pain, la femme fut libérée peu de temps après et elle appela le service d'urgence. Mais une deuxième femme n'aurait pas autant de chance. Vers 9h, une jeune mère arrivait à la maison en banlieue d'Indianapolis après avoir fait quelques emplettes en ville. Elle sortait ses sacs de l'auto quand Michael Wayne Jackson descendit du pick-up rouge volé à l'aéroport.
Hey! Joe! Joe! Get in the car! Get in the car!
C'était le troisième otage de Jackson en moins de 60 minutes. Jackson la garda captive pendant plus d'une heure en conduisant, le fusil sur les genoux. Elle le supplia de la laisser partir, mais il refusa. Il était impossible de faire entendre raison à ce forcené.
Elle lui a alors demandé pourquoi son visage était couvert de graisse et de peinture, mais il n'a pas pu lui fournir d'explication. Il lui a dit que si elle ne lui obéissait pas, il la tuerait.
Comme la femme ne voyait guère d'issue à sa situation, elle sauta à l'extérieur du véhicule à la première occasion. La voiture lui écrasa la cheville, mais elle put se rouler un peu plus loin pour ne pas se faire blesser davantage. Cette jeune mère d'un enfant fut soignée dans un hôpital du quartier où elle raconta sa mésaventure. Elle avait échappé à son ravisseur à Frankfort, soit à près de 65 km au nord-ouest d'Indianapolis. Une fois encore, les policiers durent modifier le bulletin transmis aux unités de patrouille. Ils y ajoutèrent la description de la berline et indiquèrent que le conducteur avait quitté Frankfort et roulait en direction nord. Les enquêteurs tentaient par tous les moyens de prévoir quelle serait la prochaine manœuvre de Jackson. Ils recueillaient au plus vite toutes les informations sur le passé du suspect pour tenter d'y trouver un indice.
Mike Jackson avait un lourd passé criminel. En 1985, à Indianapolis, il avait été arrêté par une juridiction fédérale et accusé d'avoir eu dans son véhicule des bombes de fabrication artisanale, de même qu'une carabine qu'il s'était plus ou moins fabriquée. Pour ces délits, il avait été condamné à un an de réclusion dans une prison fédérale, suivi de 3 années de libération conditionnelle.
Tout au long de sa vie, Jackson avait également séjourné à plusieurs reprises dans des institutions psychiatriques. Malgré les fortes objections de sa famille, ses psychiatres lui avaient récemment donné congé parce que ses médicaments pour la schizophrénie semblaient très efficaces. Mais sans supervision, Jackson avait sans doute arrêté son traitement. Après 2 meurtres et 3 enlèvements en moins de 2 heures, personne ne savait maintenant où Jackson se trouvait.
On
triait toutes les informations. On tenait les services d'urgence du secteur, ceux du reste de l'Indiana et des autres juridictions au courant pour tenter de trouver où Jackson se trouvait.
Mais les autorités n'eurent pas le temps de parer le coup. À 10h15, Jackson décida de changer de voiture à nouveau. Il fit irruption dans la maison d'une femme et de son enfant, toujours à Frankfort. Il lui ordonna de prendre les clés de sa voiture, sans quoi il la tuerait, elle et son fils. Elle obéit. En moins de 2 heures, Jackson avait enlevé pas moins de 5 personnes. Le meurtrier devenait de plus en plus audacieux et agressif. Les agents devaient l'arrêter avant qu'il ne tue à nouveau. Le 22 septembre 1986, à 10h30, Michael Wayne Jackson, 40 ans, avait abattu son agent de probation ainsi que le propriétaire d'une épicerie avant d'enlever 5 autres personnes à bord de leur voiture, tout ça en moins de 2h30. Le FBI et la police de l'Indiana croyaient que le meurtrier se dirigeait vers le nord depuis Indianapolis, mais on ignorait à quel endroit exact il se trouvait et vers quelle ville il se dirigeait. Pour les enquêteurs, Jackson, armé d'un fusil au canon tronçonné et le visage peint argent, était sans doute en crise psychotique après avoir cessé de prendre ses médicaments. La dernière fois qu'on avait vu le fugitif, il se trouvait à Frankfort, où il avait enlevé une mère et son enfant après avoir fait irruption chez eux. Il était impossible de savoir ce qu'il ferait ensuite. Jackson conduisit ses dernières victimes à un secteur isolé à 12 km de chez eux. Il les obligea à descendre de voiture avant de voler l'alliance de la femme. Il ne fit aucun mal à la femme ni à son enfant. Mais il les abandonna à 20 minutes du téléphone le plus proche. Dès qu'elle le put, la femme appela pour signaler l'enlèvement et dire où le meurtrier les avait laissés. L'agent spécial Jack Osborne fit alors émettre un mandat fédéral pour faire arrêter le fugitif sur présomption d'homicide. Mais avec si peu d'informations sur l'endroit où il se trouvait, il serait difficile de l'empêcher d'attaquer à nouveau.
Nous savions alors que Jackson quittait le secteur de Frankfort, mais nous n'avions pas la moindre idée de l'endroit où il se dirigeait, de la façon dont il s'y rendrait, de la route qu'il emprunterait, et encore moins s'il enlèverait encore quelqu'un dans les prochaines heures.
Comme Jackson agissait visiblement au hasard, les agents n'avaient d'autre choix que d'étendre leur champ de recherche. Ils avisèrent tous les bureaux du FBI dans un rayon de 1200 km, incluant Cleveland, Chicago et Saint-Louis. Ils contactèrent également la mère du fugitif au Mississippi, mais celle-ci déclara n'avoir aucune idée de l'endroit où son fils pouvait se diriger. Les enquêteurs tinrent les médias informés. À midi, la photo de Michael Wayne Jackson fut diffusée à tous les bulletins de nouvelles dans la région d'Indianapolis. 6 heures plus tard, Michael Wayne Jackson refit surface près de Saint-Louis. Il avait parcouru près de 500 km vers le sud-ouest, à proximité d'O'Fallon, au Missouri. Les policiers de ce secteur reçurent des rapports de 2 résidents dont la voiture avait été volée par un homme au visage peint argent et armé d'un fusil. La description de leur voiture immatriculée au Missouri fut ajoutée à la liste des voitures volées par Jackson.
Il faut compter environ 5 heures de route d'Indianapolis à Saint-Louis. Au début de la soirée du 22 septembre, les services de police des comtés et de l'État du Missouri ont reçu nos communiqués et nous ont contactés pour nous dire qu'ils croyaient que Jackson se trouvait dans leur secteur. Quelqu'un qui correspondait à sa description avait tenté d'enlever des gens et il avait volé une voiture.
Plus tard ce jour-là, sur une route rurale, un troisième habitant d'O'Fallon, qui rentrait chez lui après sa journée de travail, vit le suspect au volant de la voiture de sa femme. L'homme ignorait que Jackson avait tué deux personnes plus tôt le même jour. Le suspect, aux cheveux en bataille et au visage peint argent, refusa de s'arrêter. À la première intersection, le meurtrier lui barra la route et brandit son arme. À 19h, l'homme appela la police pour signaler qu'un forcené avait tiré un coup de feu sur sa voiture. Il était rentré chez lui plus tard pour découvrir que sa femme et son beau-père avaient été attaqués par le fugitif, mais n'étaient pas blessés grièvement. Les autorités ajoutèrent la description de la berline bleue et son numéro de plaque d'immatriculation au rapport sur Jackson. On en était maintenant à la 7e voiture volée par le suspect en moins de 12 heures. Malgré les informations relayées aux unités de patrouille, Jackson était toujours introuvable. Puis les policiers de la patrouille des autoroutes du Missouri furent dépêchés sur la scène d'un accident sur l'autoroute 70 à O'Fallon, près de l'endroit où le fugitif avait été vu pour la dernière fois. Une voiture avait embouti un arbre. On déclara mort le conducteur. Comme il faisait nuit, les policiers ne purent toutefois déterminer l'étendue de ses blessures. Les circonstances de sa mort étaient suspectes et sa famille demanda que son corps soit soumis à une autopsie. Le médecin légiste découvrit qu'on lui avait tiré un coup de feu à bout portant par la fenêtre de sa voiture avec un fusil de calibre 12, soit la même arme que celle dont Jackson s'était servi pour abattre son agent de probation et le propriétaire de l'épicerie. Les experts envoyèrent les chevrotines recueillies sur la victime au laboratoire judiciaire de l'État de l'Indiana pour qu'elles soient comparées aux autres. Il faudrait attendre quelques jours avant d'avoir les résultats. Les unités de patrouille aérienne redoublèrent d'ardeur pour trouver le fugitif armé. Vers 19h30, à 16 km de là, une berline noire immatriculée au Texas arriva à une station-service de Waynesville, au Missouri. Jackson avait enlevé cette 8e voiture et pris son conducteur en otage. Le commis de la station-service ignorait que l'homme au visage peint argent était recherché. Mais lorsque le fugitif lui paya les 10 dollars d'essence qu'il devait, le commis remarqua qu'il avait un fusil sur les genoux et que ses mains étaient maculées de sang. Il alerta immédiatement les autorités qui, une fois encore, mirent à jour les informations relayées aux unités de patrouille. Cette fois-ci, le bulletin incluait la description de la berline noire immatriculée au Texas. La police de Wright City au Missouri ratissait toutes les routes de l'État. À 21h15, le chef de la police de la ville et un sergent aperçurent Jackson dans la berline sombre. Celui-ci ne semblait pas savoir quoi faire. Le chef demanda alors des renforts par radio. Malheureusement, ils n'arrivèrent pas à temps. Le sergent fut touché à la tête. Jackson prit alors la fuite. Comme la blessure du sergent semblait mineure, le chef décida de le laisser aux soins d'un témoin et de poursuivre le fugitif. Mais le chef ne parvint pas à le rattraper. À 8 km de là, deux patrouilleurs des autoroutes aperçurent la berline volée, abandonnée sur un terre-plein. Il n'y avait personne à l'intérieur, mais la clé était toujours dans le contact. C'est alors que les agents entendirent des bruits en provenance du coffre. Ils s'attendaient au pire. Ils ne trouvèrent toutefois que le propriétaire de la voiture. Il était traumatisé, mais pas blessé. Comme il disait s'être fait voler toutes ses cartes et qu'il était impossible de vérifier son identité, les policiers s'assurèrent qu'il n'était pas armé. Il décrivit son ravisseur. C'était un homme dont le visage était couvert de peinture argent, armé d'un fusil au canon tronçonné. Il ignorait dans quelle direction le fugitif était allé, mais il semblait avoir une arme avec lui, car les policiers ne la retrouvèrent pas dans la voiture. Ne sachant trop dans quelle direction le fugitif était parti et s'il avait enlevé une autre victime, le FBI et la police élargirent leur zone de recherche. Après plusieurs heures, ils n'avaient rien trouvé, comme se le rappelle l'agent spécial chargé de l'affaire à Saint-Louis, Al Alteroff.
Le soir où Michael Wayne Jackson a abandonné ce véhicule, on a ratissé l'autoroute, direction sud, et le lendemain matin, direction nord. Nous ne l'avons pas retrouvé. Ensuite, quand j'ai compris que les recherches seraient plus longues que ce que j'avais prévu initialement, j'ai demandé qu'on m'envoie davantage d'agents du FBI.
Des agents des autorités fédérales et de l'État examinèrent le dernier véhicule volé par Jackson. Ils remarquèrent que la portière du côté du conducteur avait été perforée lors de l'échange de coups de feu avec la police. Comme on ne retrouva pas de projectile à l'intérieur, on en déduisit que Jackson avait peut-être été touché aux côtes. Le fait qu'il ait abandonné le véhicule à peine quelques instants plus tard pouvait expliquer qu'il n'y ait pas de sang sur le siège.
Nous avons émis l'hypothèse qu'il avait peut-être été blessé et qu'il était allé au bord de l'autoroute, en direction sud, se reposer un peu. Il avait peut-être ensuite été incapable de se relever à cause de cette blessure, ou alors il était mort.
Les autorités érigèrent un périmètre de sécurité d'un rayon de 8 km autour de Wright City. Les 1200 habitants se réveillèrent le matin pour trouver leur ville remplie de policiers à la recherche d'un meurtrier armé et à l'esprit dérangé. Comme il n'y avait jamais eu d'homicide à Wright City, où les activités criminelles étaient plutôt rares, ils étaient terrorisés. Beaucoup d'entre eux verrouillèrent leurs portes pour la première fois et interdirent à leurs enfants d'aller à l'école ce jour-là. On quadrilla la région en secteurs d'un mille carré. Des équipes de recherche constituées de chiens renifleurs, de membres de l'unité SWAT, d'agents du FBI et des policiers de l'État se mirent au travail. On distribua la photo du suspect aux membres des équipes et on fit renifler les vêtements de Jackson aux chiens limiers. Des centaines de bâtiments habités ou inoccupés parsemaient le paysage. Il fallait tous les fouiller. Au cours des jours suivants, on examina de nombreux endroits à plusieurs reprises. C'était un travail ardu qui prenait beaucoup de temps. Les chiens limiers, reconnus pour leurs larges mâchoires et leurs longues oreilles, perçoivent les moindres odeurs. Malheureusement, ils ne trouvèrent aucune trace de Jackson. Près d'un bâtiment, des membres de l'équipe de recherche trouvèrent ce qui semblait un campement abandonné, mais ils apprirent bientôt que les casseroles et le vieil imperméable avaient été laissés là par un travailleur itinérant au moment des récoltes. Malgré une semaine de recherche, les équipes n'avaient rien découvert sur Jackson.
On essayait de ne pas se laisser décourager. On gardait le moral en se disant que ce jour-là serait le bon, qu'on allait le trouver. C'est le genre de cas où nos équipes sur le terrain s'attendent à tout moment à voir le suspect. Ça les motive à continuer.
De leur côté, les médias informaient le public pendant que le FBI et la patrouille d'État arrêtaient toutes les voitures qui empruntaient le segment d'une quarantaine de kilomètres de l'autoroute d'un côté et de l'autre de Wright City. Un des automobilistes déclara être le neveu du fugitif. Il avait entendu parler des recherches et il désirait venir en aide à la police. Selon lui, son oncle n'avait aucun mal à survivre en forêt. De plus, comme Jackson possédait un gilet pare-balles, il était possible qu'il le porte. Cela pouvait expliquer comment il avait pu échapper à la police, malgré le fait qu'il ait reçu un projectile à la cage thoracique.
On avait des chiens renifleurs spécialisés dans la recherche de cadavres. Mais on n'a pas retrouvé de corps. J'étais donc enclin à croire qu'il était toujours en vie et en bonne santé.
Les fermiers de la région vaquaient à leurs occupations quotidiennes tout en demeurant vigilants. Une semaine après le début des recherches, une femme aperçut le fugitif, barbu, vêtu d'un imperméable noir, un fusil à la main. Elle s'empressa de le signaler aux autorités, mais les policiers arrivèrent trop tard. 7 jours après le départ précipité de sa maison d'Indiana, le fugitif meurtrier était toujours en cavale. Les agents du FBI devaient absolument le retrouver avant qu'il ne fasse une autre victime. Le 28 septembre 1986, une semaine s'était écoulée depuis le début de la poursuite de Michael Wayne Jackson, un fugitif armé, recherché après avoir commis plus d'un meurtre, en plus d'avoir volé maintes voitures et blessé un policier. Le criminel de 41 ans avait été vu pour la dernière fois à pied dans le secteur rural de Rice City, au Missouri. Malgré des recherches intensives, le FBI et la police locale n'avaient trouvé aucune trace du meurtrier. Les agents du FBI croyaient que Jackson avait peut-être volé une autre voiture pour échapper à ses poursuivants. À court d'idées, ils se tournèrent vers Ron Walker, spécialiste de sciences comportementales au FBI.
On m'a demandé d'évaluer ou de prédire plutôt ce qu'il ferait par la suite. À quel endroit il irait, selon moi. Et plus important encore pour eux à ce moment-là, de leur dire s'ils se trouvaient toujours dans le secteur qu'ils fouillaient depuis 7 jours.
L'agent Walker examina les antécédents psychologiques et criminels de Jackson. Il lut également le rapport des derniers événements. Comme on n'avait signalé aucun autre crime depuis la dernière semaine, il en conclut que Jackson se trouvait vraisemblablement encore à Wright City.
My opinion was that he was there. J'en ai déduit qu'il était toujours là et qu'il était peut-être un peu désorienté. Compte tenu de ses tendances paranoïdes et de sa crainte d'être capturé, il éviterait tout contact avec des gens, sinon pour mettre la main sur un véhicule et s'enfuir. C'est pour cette raison que j'ai dit au policier qu'il était primordial de rester vigilant pour lui montrer qu'il était toujours recherché très activement. Pour ne pas qu'il ait l'impression qu'il pouvait facilement fuir en enlevant une autre personne dans sa voiture.
Comme le fugitif se trouvait sans doute encore dans le secteur, le FBI demanda l'aide de Bob Swaib du bureau de Knoxville au Tennessee. Au cours de sa carrière, ce pisteur a entre autres retracé le meurtrier de Martin Luther King Jr., James Earl Ray, après qu'il se soit enfui de sa prison en 1976. Les agents espéraient que Swaib parviendrait à trouver Jackson à l'aide des infimes indices à sa disposition.
Il est très rare qu'on trouve une empreinte parfaite. On doit apprendre à interpréter les traces sur le sol. Et la moindre anomalie, comme une feuille retournée, ou une brindille cassée ou encore écrasée.
Grâce à son expérience, Swaib peut facilement distinguer une empreinte animale d'une empreinte humaine en évaluant sa profondeur et la hauteur des branches abîmées, l'état des herbes au sol, de même que la température de la trace. Alors que les animaux réchauffent l'emplacement où ils se sont couchés, ce n'est pas le cas des humains dont la chaleur est retenue par les vêtements ou les chaussures. Mais même pour un pisteur d'expérience comme Swaib, ce serait tout un défi de trouver la trace de Jackson, compte tenu de l'ampleur des recherches.
Beaucoup de gens étaient passés par là avant nous. Je crois qu'il y avait 200 ou 300 agents de police en tout, à la recherche du fugitif, avant même qu'on se soit rendu sur place. Ça rendait notre tâche plus difficile.
Puis, le 29 septembre 1986, un habitant de Wright City confirma ce que le psychologue avait soupçonné. Quelqu'un était entré par effraction dans sa maison d'invité. Rien n'avait été volé, mais il avait trouvé un miroir brisé, des rasoirs jetables utilisés et une boîte de soupe en conserve ouverte. Dans le lavabo de la salle de bain, les experts trouvèrent des poils tachetés de peinture argent. Il semblait bien que Jackson avait encore modifié son apparence. Après 9 jours de recherche, les agents craignaient que le fugitif n'ait échappé aux policiers en affichant une nouvelle apparence. L'agent spécial Jack Osborne prit les mesures nécessaires pour en informer le public.
Le 1er octobre, on a mis le nom de Jackson sur la liste des 10 hommes les plus recherchés par le FBI pour que l'information soit diffusée à l'échelle nationale. Les recherches pour le retrouver à Saint-Louis et Wright City ont continué encore pendant plusieurs jours. Des gens avaient signalé sa présence, mais nous ne savions pas exactement où il se trouvait. Nous pensions que cette publicité additionnelle, le présentant comme un fugitif très dangereux, nous aiderait à le retrouver s'il avait quitté le secteur.
Le 2 octobre, les enquêteurs retournèrent à un bâtiment qu'ils avaient fouillé la semaine précédente. L'équipement de camping qu'ils avaient alors remarqué se trouvait encore là, mais quelque chose manquait. Un imperméable bleu. Jackson était-il venu le chercher maintenant que les nuits étaient plus froides?
J'avais l'impression qu'il chercherait un bâtiment abandonné pour s'y cacher et s'y abriter. Nous avions affaire à un type en cavale qui n'avait rien à manger ni à boire et qui était sûrement dans un état émotionnel très instable, très anxieux. Physiquement, il allait mal et mentalement aussi.
En s'approchant de la grange que l'équipe avait fouillée plus tôt, un des pisteurs remarqua dans la boue l'empreinte d'une chaussure de course menant à l'intérieur. La dernière fois qu'on avait vu Jackson, il portait ce type de chaussures. Les membres de l'équipe ignoraient depuis combien de temps l'empreinte se trouvait là et si c'était bien Jackson qui l'avait laissée.
Des équipes SWAT étaient venues et il nous était impossible de savoir si cette trace avait été laissée par un des leurs ou par Jackson. La boue avait partiellement séché, mais il y avait encore un peu d'humidité, ce qui indiquait qu'elle n'avait pas plus de 8 heures.
On entendit alors un coup de feu provenir de la grange. Un des membres de l'équipe parvint à sortir du bâtiment sain et sauf, mais pas son collègue.
Quand j'ai entendu la détonation au-dessus de ma tête, j'ai vu des plombs projetés partout dans la grange. Je n'ai pas cru qu'un d'entre nous avait été touché. J'ai alors regardé à ma gauche et j'ai vu l'un des pisteurs sauter dans un box.
Comme il ignorait où se tenait le tireur, il ne pouvait atteindre la porte sans risquer d'être une cible. Comme le pisteur n'avait pas de radio, les autres membres de l'équipe lui parlaient à travers les murs. Il leur dit qu'il n'avait pas été touché et décrivit l'intérieur de la grange pour que l'équipe puisse mettre au point un plan d'attaque. Il n'y avait pas d'autre sortie que la porte avant.
Pour moi, l'issue de l'affaire Jackson ne pouvait qu'être violente. Je me disais qu'il allait se barricader, qu'il y aurait une fusillade au cours de laquelle il se ferait éventuellement tuer par un policier ou encore qu'il se jetterait sous le feu de nos hommes pour se suicider. J'étais absolument sûr que cette affaire ne se résoudrait pas sans violence.
Le pisteur attendait les secours de l'équipe. Il était prisonnier dans la grange, un forcené armé juché quelque part au-dessus de lui. Le 2 octobre 1986, le FBI et la police d'État du Missouri avaient encerclé une grange de Wright City où un pisteur était retenu prisonnier par un fugitif caché dans le fenil. Le fugitif était vraisemblablement Michael Wayne Jackson. Pendant qu'un hélicoptère surveillait les environs du haut désert, des membres d'une unité SWAT prirent position autour du bâtiment. Un tireur d'élite devait occuper par ses tirs le forcené juste assez longtemps pour que le pisteur puisse sortir de la grange. La tactique porta fruit. Même si le pisteur se trouvait depuis plusieurs heures à l'intérieur depuis le coup de feu initial, il n'avait ni vu ni entendu le fugitif par la suite. L'agent spécial en chef, Arl Elteroff, devait maintenant prendre d'importantes décisions.
Nous ne voulions pas envoyer nos hommes à l'intérieur si Jackson avait prévu les prendre en embuscade. Il pouvait n'avoir tiré que pour nous attirer à l'intérieur et nous y attendre, toujours bien en vie, avec tout ce qu'il lui fallait de munitions. On ne savait pas à quoi s'attendre.
Le propriétaire de la grange fit un croquis détaillé de l'intérieur du bâtiment. Il y avait un espace pour le tracteur, des stalles et juste au-dessus, le fenil où se trouvait une lucarne. Il n'y avait aucune autre issue ni aucune trappe par laquelle le suspect pouvait sortir. Les agents tentèrent d'entrer en contact avec le fugitif. Ils n'obtinrent aucune réponse.
Après avoir travaillé si fort et si longtemps, nous ne voulions pas tout gâcher en faisant une fausse manœuvre et risquer qu'un de nos hommes soit blessé. Il s'agissait donc de procéder de façon très disciplinée, très organisée.
L'agent spécial chargé de l'affaire espérait faire sortir le fugitif en envoyant du gaz lacrymogène dans la grange. Des hommes lancèrent des bombes lacrymogènes dans le fenil. Il n'y eut aucune réaction.
Il faisait nuit, et nous nous demandions si nous devions passer à l'action, lancer l'assaut, ou attendre au lendemain matin, ou du moins jusqu'à l'aube. Après 11 jours de recherche, on pouvait bien tolérer quelques heures d'attente de plus, surtout que l'homme à l'intérieur était pris au piège. Mais la météo prévoyait des orages violents vers minuit. Les responsables de la police d'État et moi-même avons donc décidé que c'était le temps de passer à l'action.
Équipés de lunettes de vision nocturne, des membres de l'unité SWAT se faufilèrent dans l'ombre. Deux d'entre eux fouillèrent le niveau inférieur pendant que deux autres les couvraient. Ils ne trouvèrent personne. Il était impossible de savoir si le fugitif les attendait, silencieux, ou même s'il était encore là. La réponse ne tarda pas à venir. Gisant parmi les balles de foin se trouvait un homme tenant un fusil qui semblait être Jackson. Il était mort, tué d'un seul coup de feu qu'il s'était tiré à la tête quelques heures plus tôt. Les agents devaient maintenant vérifier s'il s'agissait bien du fugitif.
J'ai dit « prenez ses empreintes ». Un expert du FBI se trouvait sur les lieux et il avait déjà les empreintes de Michael Wayne Jackson avec lui. Il a pris les empreintes de l'homme. Nous avons attendu qu'il ait complété son analyse, puis il nous a dit « c'est lui ». c'est Michael Wayne Jackson. Nous étions tous très soulagés.
Le meurtrier ne portait aucun gilet pare-balles, mais comme le psychologue du FBI l'avait prédit, Michael Wayne Jackson avait choisi de se donner la mort plutôt que de se rendre. 11 jours après qu'il ait tué son agent de probation et commencé sa cavale, la ville de Wright City au Missouri put se sentir à nouveau en sécurité. L'affaire aurait pu mal se terminer, selon le sergent Don Biselli de la patrouille du Missouri.
J'étais soulagé pour les habitants. Soulagé de savoir que plus personne ne serait blessé. C'était ma principale préoccupation. Plus personne dans la population n'aurait à s'inquiéter de Michael Wayne Jackson.
Depuis la mort de Thomas Gall, les agents de probation ont maintenant le choix de porter des armes de poing. L'agent spécial Jack Osborne était proche de Gall et de sa famille, et il souffre toujours de cette perte.
En tant que représentant de la loi, je crois qu'on meurt un peu lorsque quelqu'un qui nous est cher souffre. Tom était proche de moi, c'était un ami. Et non seulement mon ami, mais aussi celui de tous les agents de notre bureau. Nous le connaissions bien et travaillons souvent en étroite collaboration avec lui, ainsi qu'avec le bureau de probation.
Pour rendre hommage à Thomas Gall, cet homme qui a donné sa vie dans l'exercice de ses fonctions, le bureau de probation d'Indianapolis porte maintenant son nom. Ainsi, ses amis et collègues ont pu exprimer de façon officielle leur profond respect et leur affection pour cet homme exemplaire.